Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Au sommaire de Mémoire vive, l'Italie. L'Italie fasciste et la persécution des Juifs, c'est le titre du livre dont nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons en discuter avec son auteur, Marianne Matar-Bonucci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Grenoble. L'Italie fasciste et la persécution des Juifs, paru aux éditions Perrin en 2007. Alors c'est un ouvrage de 400 pages de texte très riche avec un cahier iconographique, plus de 100 pages de notes, de bibliographie, d'index. Bref, c'est un tour d'horizon très complet de la question. Pour commencer, Marianne Matar-Bonucci, quel a été le point de départ de ce livre? Est-ce le côté tout à fait singulier de la mise en place des persécutions antisémites dans l'Italie fasciste qui vous a d'abord attiré vers cette histoire?
C'était vraiment comprendre pourquoi ce régime qui n'est pas antisémite jusqu'en 1937-1938 et qui est au pouvoir depuis plus de 15 ans, brutalement se convertit à l'antisémitisme, et comprendre pourquoi aussi si rapidement, bon, je raconte déjà un peu la fin de l'histoire, eh bien il réussit à transformer des Juifs qui étaient particulièrement bien intégrés dans ce pays, qui faisait partie des communautés probablement les mieux intégrées d'Europe, comment il réussit à les transformer en véritables parias.
Alors ces questions, vous les rassemblez, ce grand pourquoi, en quatrième de couverture, vous listez un certain nombre de questions. On peut la résumer, cette question fondamentale, pourquoi en quelques semaines l'exclusion des Juifs devient la grande affaire qui occupe toute l'Italie, alors que les Juifs représentent à peine la population d'une petite ville moyenne dans ce pays. Alors vous ouvrez votre introduction sur un petit exercice de micro-histoire. Nous sommes dans un village de Toscane, le village de Magliano, et vous racontez le sort du seul habitant juif de ce tout petit village de Toscane. Pourquoi avoir voulu ouvrir donc ce livre sur le cas du docteur Galici, le pharmacien de ce petit village?
Alors, il y a des raisons personnelles, c'est que c'est un lieu qui m'est très cher pour des raisons personnelles, mais il se trouve que lorsque j'y étais allée, j'avais été frappée parce que sur le mur de l'église de Magliano, il y a une étoile de David. Et donc, à partir de ce constat, j'étais allée discuter avec des habitants, avec un monsieur qui est un peu la mémoire historique du village et qui m'a raconté cette histoire dont j'ai pensé qu'elle était particulièrement emblématique, effectivement, de l'histoire des Juifs de manière plus générale, à savoir que le pharmacien de Magliano, donc, était juif. Il a dû arrêter son activité. Il était particulièrement ami avec le curé de l'église. Et l'étoile de David est une forme d'hommage qui lui a été rendue et une manière aussi de signaler son exclusion. Et ce qui peut sembler paradoxal, c'est que en interdisant donc le pharmacien de profession, eh bien le régime punissait aussi les habitants non juifs de Magliano qui n'avaient plus de pharmacie à leur disposition. Et je crois que c'est assez emblématique de cette logique folle, véritablement, mais logique quand même, qui procède de la nature totalitaire de ce régime fasciste. Parce que ce que je peux peut-être préciser, c'est que moi je suis venue à l'histoire de l'antisémitisme fasciste comme historienne du fascisme d'abord. C'est-à-dire j'avais fait une thèse sur l'histoire du fascisme en Sicile, dans une région d'ailleurs où il n'y avait pas de juifs du tout, il n'y en avait plus depuis 1492 pratiquement. Et donc c'est ces mécanismes politiques qui m'intéressaient au départ.
Et alors ce mécanisme politique, ces mécanismes, vous les décryptez de manière très précise tout au long de votre livre. Alors comme pour le pharmacien du village toscan de Magliano, tout va changer pour les juifs d'Italie le 14 juillet 1938, avec la publication dans la presse d'un manifeste, le manifeste intitulé « Le fascisme et les problèmes de la race », manifeste signé par des scientifiques. Et là, le paysage change totalement du jour au lendemain pour les Juifs d'Italie avec la publication de ce texte.
Tout à fait. Alors, c'est un texte qui paraît dans un journal qui était Il Giornale d'Italia, un des grands quotidiens italiens. Bon, bien sûr, la presse est sous contrôle depuis 1925-1926. Et c'est une espèce de décalogue, puisqu'il y a 10 points dans lesquels des savants, dont d'ailleurs le nom ne seront connus qu'a posteriori, expliquent que les races humaines existent, que les Italiens appartiennent à la race aryenne, et que les Juifs et les Africains n'appartiennent pas à la race aryenne.
Article 9, les Juifs n'appartiennent pas à la race italienne même.
Oui, absolument. Et les Italiens appartenant eux-mêmes à la race aryenne, effectivement. Et il est dit également dans ce texte qu'il faut pratiquer une politique de séparation entre les races et que le métissage est particulièrement néfaste.
Alors, ce manifeste prend les gens de court. Vous faites l'hypothèse, et vous le démontrez d'ailleurs, qu'il répond sans doute à une préoccupation qui est installée depuis plusieurs mois dans certains cercles du régime et dans l'esprit de Mussolini. Et alors, après la publication de ce manifeste, donc le 14 juillet 1938, tout l'appareil d'État fasciste se mobilise autour de cette cause qui est donc la cause raciste, qui ne faisait pas partie de l'idéologie première du régime.
Tout à fait. Alors, ce qui peut sembler curieux, c'est qu'effectivement, dès lors que le régime se décrète antisémite, il le fait de la manière la plus caricaturale, entre guillemets, qu'il soit, c'est-à-dire sous la forme d'un racisme biologique, bon, qui semble très directement copié sur l'idéologie nationale-socialiste. Et il sera d'ailleurs interprété comme ça par beaucoup d'observateurs juifs, non-juifs. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup... Alors, les juifs, bien évidemment, ont commencé à percevoir depuis quelques mois des signes, parce qu'il y a une campagne de presse qui a commencé dès le printemps 1937, donc commencer à s'inquiéter. Mais il y a beaucoup de fascistes, de responsables fascistes, qui sont véritablement pris de court et qui se demandent pourquoi, à ce moment-là, Mussolini a décidé, en effet, de faire savoir que l'antisémitisme d'État allait être installé.
Alors, tout l'appareil de l'État se met en branle, et en un semestre, en 6 mois, de l'été 38 à la fin de l'année, donc va être mis en place tout un arsenal juridique pour la persécution des Juifs italiens. Donc une très grande mobilisation de l'État, mais en même temps beaucoup de précipitation et beaucoup de flottement d'ailleurs dans la définition des catégories.
Oui, alors par exemple un recensement est organisé à l'été, en plein été, en plein mois d'août, alors qu'on sait à peu près déjà combien sont les Juifs, mais à un moment où les gens sont partis en vacances, donc ça pose
donc
des problèmes
sont environ 40 000,
d'organisation. Oui,
40
c'est
000.
Ça, entre 40 et 50 000 à peu près. Et donc il y a quelque chose, effectivement, il y a comme une espèce de fièvre, de hâte là, à vouloir précisément désigner les Juifs donc comme paria. Et alors à la suite de cela, donc le recensement a lieu au mois d'août. Dès le mois de septembre, les premières lois sont adoptées, des lois qui chassent les Juifs étrangers d'abord d'Italie, qui décrètent la dénaturalisation de ceux qui avaient obtenu la citoyenneté après 1919, et surtout tout de suite des lois excluant les Juifs des écoles, de l'enseignement, aussi bien les élèves que les professeurs, qui vont être contraints à fréquenter des écoles séparées. Et ça, c'est une mesure, bon, effectivement, qui va très très loin.
Alors, avec tout un arsenal qui peut se rapprocher des lois antisémites de Vichy, avec la spoliation de certains biens. Enfin, on retrouve à peu près tout l'éventail des mesures de persécution.
Tout à fait. Alors, il faut bien voir que l'Italie adopte ces lois à un moment, bien sûr, où l'arsenal juridique allemand est presque complet, déjà, et où d'autres pays, tels que la Hongrie ou la Roumanie, sont en train aussi d'adopter des lois raciales. Donc, l'Italie capitalise, si l'on peut dire, cette expérience juridique d'autres lois raciales. Mais, sur certains points, et je le dis sachant que je m'adresse à un public français parce que c'est une idée qu'on a beaucoup de mal à faire passer en France, sur certains points, cette législation va aller plus loin que ce que fera le régime de Vichy, par exemple sur la question de l'école. Alors, c'est un antisémitisme, donc des interdictions professionnelles sont mises en place, les Juifs sont exclus de la fonction publique, sont exclus du parti fasciste, ce qui veut dire, dans cette société totalitaire, être mis au banc de la société, et des lois de spoliation, effectivement, sont mises en place, tout ça à l'automne 1938. Pour ce qui est de la spoliation, les choses iront un peu plus lentement que les autres mesures. Et puis, bien sûr, il y a une forme de surenchère, de persécution administrative qui est la conséquence de ce régime qui est un régime totalitaire, qui est une dictature, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de zèle d'administration à administration entre partis et administration qui fait que la condition des Juifs va aller s'aggravant jusqu'à la guerre et jusqu'à la République sociale italienne.
Alors Marianne Matar-Bonucci, on le voit donc, ce régime italien se convertit brutalement à une idéologie raciste et antisémite. Mais parmi ces priorités, il y a une auto-justification. Et le changement de discours est brutal, et à peine le pouvoir fasciste s'est-il engagé dans cette voie, qu'il tente de réécrire l'histoire pour expliquer, au contraire, qu'il est tout à fait cohérent dans sa prise de décision. Et alors, on voit dans les principaux organismes de propagande qui se mettent en place à ce moment-là, on ressort, par exemple, des écrits de la Rome antique, pour montrer que, dans la Rome antique, on était déjà antisémite.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut absolument inscrire dans une tradition, hein, dans une forme de cohérence, ce qui apparaît aux yeux des Italiens comme étant quand même une rupture, hein, parce que on a vu effectivement certains juifs qui étaient au sein du gouvernement, les juifs étaient admis au sein du parti fasciste, donc il semble important, donc on va chercher dans certains textes antiques pour montrer que dès l'Antiquité, il existait des formes d'antisémitisme, le régime et également la propagande met l'accent sur l'antisémitisme catholique pour expliquer que l'Italie, comme elle était catholique, a toujours eu cette tradition d'antijudaïsme, alors que s'il y a bien une tradition d'antijudaïsme catholique en Italie, là, en l'occurrence, l'Église n'est évidemment pour rien dans l'adoption des mesures antisémites. Et on essaye aussi, en allant chercher dans les discours passés de Mussolini, de trouver des citations, et on en trouve quelques-unes, effectivement, dans lesquelles il apparaît que le dictateur était antisémite.
Hein. Alors évidemment, reproche traditionnel que l'on fait aux Juifs en Italie comme ailleurs, leur difficulté, voire même leur refus à s'intégrer dans la société italienne. Refus, dites-vous, démenti par les faits, parce qu'au contraire, l'Italie est un pays où l'intégration des Juifs était parmi les plus avancées.
Oui, parmi les plus avancées, et cela dès le XIXe siècle. Hein. Il y a par exemple ce texte fameux d'Anatole Leroy-Beaulieu qui s'appelle « Israël et les nations », dans lequel il fait un portrait, bon, sans doute tout à fait exagéré, mais véritablement idyllique, hein, de la condition des Juifs en Italie, en expliquant que c'est un véritable Éden, etc. Les Juifs ont soutenu l'unité italienne, ont été émancipés grâce au Risorgimento, et donc leur histoire se confond véritablement avec l'histoire nationale. Et quelqu'un comme Gramsci, c'est une formule qui est souvent citée, le grand intellectuel communiste qui sera lui-même victime du fascisme, cite souvent l'historien Momigliano qui expliquait que les Juifs étaient aussi italiens que les Siciliens, que les habitants de Campanie, précisément parce que leur intégration s'est faite au même moment. Hein. Émancipation et intégration sont intervenues au même moment.
Alors, un signe de cette intégration, d'ailleurs, Marianne Matarbonucci, c'est que vous rappelez que de nombreux juifs ont rejoint le parti fasciste.
Oui, il y a effectivement une proportion très importante de juifs au sein du parti fasciste, plus importante même par rapport au reste de la population rapportée, encore une fois, au nombre de juifs qui existent en Italie, pour des raisons qui sont, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des juifs aussi antifascistes, bien sûr, mais pour des raisons qui sont sociologiques et qui sont géographiques, puisque les juifs sont installés essentiellement dans le centre et le nord de l'Italie, qui sont des régions qui ont été acquises plus rapidement au fascisme, et parce que les classes moyennes y sont particulièrement bien représentées. Hein. Et alors, parmi les raisons que le fascisme met en évidence dans cette espèce de volonté d'écrire l'histoire de ces persécutions antisémites, il met l'accent aussi sur la guerre d'Éthiopie et sur la politique de racisme qui, bien réelle, a été mise en œuvre en Éthiopie, notamment parce qu'en avril 1937, des lois contre le métissage et interdisant en particulier le concubinage entre des Italiens et les femmes éthiopiennes ont été adoptées. Et donc, ça je ne l'ai pas rappelé, mais parmi les interdictions, il y a celle des mariages, hein, aussi entre juifs et non-juifs. Et du coup, le fascisme peut facilement expliquer que cette législation antisémite s'inscrit dans la continuité de la guerre d'Éthiopie, ce qui, de mon point de vue, est un argument de deuxième génération, hein, et est une reconstitution a posteriori.
Alors, Marianne Matarbonucci, donc le Sénat et la Chambre des députés en Italie vont voter les lois raciales donc à la fin de l'année 1938. Vous consacrez dans votre ouvrage, j'imagine que le travail de recherche dans les archives a dû être très 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 important, en tout cas le résultat en est très éclairant dans ce livre, vous consacrez donc plusieurs chapitres à l'analyse de la presse, hein, et notamment de la propagande donc antisémite dans la presse italienne, et notamment à travers une publication phare donc, qui est mise en place à l'été 1938 pour porter ce nouveau message antisémite et raciste du pouvoir fasciste. C'est donc le rôle de la revue La Difesa della Razza, hein, donc la défense
oui.
de la race.
Oui.
Voilà. Alors, cette revue, elle a une esthétique tout à fait particulière, et donc dans ce cahier iconographique au cœur de votre livre, vous reproduisez un certain nombre de cette revue. Est-ce que vous pouvez nous en décrire l'esprit?
Oui, alors c'est une revue qui est lancée donc à l'été 1938, dont la direction est confiée à un journaliste, qui est un journaliste de talent, fasciste de longue date, qui s'appelle Telesio Interlandi, et qui dirigeait un quotidien romain, Il Tevere, jusque-là, qui déjà avait lancé effectivement quelques campagnes antisémites auparavant. Alors, c'est une revue qui se veut une revue de propagande, et en même temps une espèce de laboratoire, au fond, de ce racisme et de cet antisémitisme.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que tous les autres titres de la presse non spécialement raciste et antisémite, par exemple vous épluchez aussi le Corriere della Sera de l'époque,
oui.
vont piocher tous les arguments voilà. antisémites dans cette revue, parce que les journalistes du Corriere della Sera n'ont pas forcément les références, les outils idéologiques pour alimenter donc cette vaste campagne de presse
tout
antisémite.
Tout à fait. Alors on a des informations sur la façon dont ils travaillaient, donc ils sont abonnés à la presse antisémite, bien sûr allemande, mais aussi à la presse française, et ils vont véritablement piller hein, la littérature antisémite et raciste européenne pour construire cet objet, alors qui est très étonnant d'un point de vue effectivement formel et graphique, parce qu'il y a ces couvertures qui sont très inventives hein, et qui reposent beaucoup sur l'utilisation du photomontage, parce que Interlandi a été beaucoup influencé d'un point de vue esthétique et propagandiste, notamment par les avant-gardes, par le futurisme aussi, et ils vont mettre au service de ce discours antisémite eh bien ce savoir graphique. Hein.
Alors, est-ce que vous pouvez par exemple nous décrire la une je
oui,
crois, du premier
alors,
numéro
le premier numéro
qui va devenir le logo de la revue.
Voilà, qui va devenir le logo de la revue est très connu. Parce qu'on y voit, au fond, on voit trois profils successifs. Au fond, le Doriford.
Un collage de photographies.
Voilà, un photomontage avec le Doriford de Polyclète qui est censé incarner donc l'Arien, hein, les canons de la beauté arienne. Puis, un profil de juif de caricature qui est en fait une statue, une image prise dans un musée de Mayence en Allemagne. Et une photographie de femme africaine qui vient de la collection d'un anthropologue qui a été très actif en Éthiopie et qui va jouer un rôle très important dans toute cette campagne pour le versant raciste. Hein, parce que effectivement, cette propagande va essayer de marcher sur deux jambes, anti-judaïsme, antisémitisme d'un côté et racisme anti-africain hein, de l'autre. Et donc, entre ces trois individus, ces trois archétypes d'une certaine façon, passe un glaive qui sépare le Doriford des deux autres personnages et on voit juste le glaive, l'épée et la main qui la tient. Et donc le thème qui est représenté ici, c'est celui de la séparation qui est le slogan le plus récurrent de la propagande, avec cette idée qu'on ne veut pas persécuter mais qu'on veut discriminer et séparer. Et l'analyse qu'on peut en faire, eh bien, c'est que la représentation de ce bras armé est en fait ce que Mussolini veut faire des Italiens à travers cette politique de persécution, c'est-à-dire des gens qui sont capables hein, de tailler dans le vif de la société et qui sont capables effectivement de persécuter.
Alors la persécution va atteindre un nouveau palier dramatique, Marianne Matarbonucci, avec le déclenchement des hostilités de la Seconde Guerre mondiale, puisque là on va passer à une politique d'internement. Hein, des camps de rassemblement vont être créés dans le centre et le sud de l'Italie. Donc là, on entre dans une nouvelle phase.
Oui, alors effectivement, à partir du moment où la guerre est déclarée, les Juifs sont considérés avec beaucoup plus de suspicion.
Parce qu'ils
et
deviennent
comme étant,
ennemis de l'intérieur.
Voilà, ils deviennent ennemis de l'intérieur parce que ce sont des alliés potentiels, des alliés qui eux-mêmes sont ennemis de l'Allemagne, aux côtés desquels donc, l'Italie combat. Donc de ce fait, certains d'entre eux sont internés dans des camps, notamment qui sont dans le sud de l'Italie. Alors des camps évidemment qui n'ont rien à voir quand même du point de vue des conditions de détention avec les camps de concentration allemands, mais qui sont quand même des camps. Bon, il y a dans ce régime fasciste une habitude d'internement, hein, qui avant de frapper les juifs a frappé les antifascistes. Et paradoxalement, pour certains d'entre eux, le fait d'avoir été internés dans le sud de l'Italie leur vaudra d'être sauvés, hein, à partir du moment où l'Italie va se trouver coupée en deux, donc, et où le centre et le nord seront effectivement occupés par les Allemands. Alors, juste ce que je peux peut-être préciser, parce que je disais que la question la plus importante, c'était celle du pourquoi. Pourquoi, finalement, en 1938, le régime décide-t-il de mettre les Juifs comme ça au banc de la société? Parce qu'il y a, de mon point de vue, une volonté politique qui est de relancer la machine totalitaire, qui est de relancer le totalitarisme
parce
fasciste.
Parce que ça fait donc, rappelons-le, 15 ans que le pouvoir fasciste est arrivé.
Voilà,
est en place.
Et tous les ennemis réels sont neutralisés. Ils
les
sont en prison, ils sont dans les
exils,
Paris, les communistes, les francs-maçons, etc. Et donc, il y a, dans ce contexte de 1938, un régime qui devient totalitaire, c'est l'Allemagne. Et Mussolini se dit, eh bien, face à ce totalitarisme accompli, il faut inventer quelque chose pour durcir le régime italien, changer les comportements. Et le seul ennemi possible, ce sont les Juifs, dans un contexte, bien sûr, où ils sont persécutés partout en Europe.
Alors, on va être obligé de passer très vite sur les circonstances de l'Italie dans la guerre, hein, Marianne Matarbonucci.
Oui.
Mais à l'été 1943, donc, Mussolini est renversé. L'Italie va vivre un mois, un peu plus d'un mois de régime démocratique avant le retour de Mussolini au pouvoir, puisqu'il a été libéré par un commando de soldats allemands. Et là, on rentre encore dans une nouvelle période, puisque l'Italie va être en quelque sorte vassalisée par l'Allemagne nazie. Et là, on va donc voir s'appliquer la solution finale au territoire de l'Italie sous domination allemande.
Absolument. Jusqu'en 1943, donc, c'est vraiment un régime souverain, autonome, qui persécute les Juifs. Hein. Non sans fascination pour l'Allemagne, mais autonome. Septembre 1943, la République sociale italienne est un régime collaborationniste, vassal, et l'un des premiers textes adoptés désigne les Juifs comme appartenant à une nationalité ennemie, et des pouvoirs de police sont donnés permettant leur internement. Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est que dans la phase antérieure, il existait une catégorie de Juifs qu'on appelait les Juifs discriminés, qui étaient les Juifs anciens combattants, militants fascistes, historiques, etc., et leurs familles qui avaient pu être placées à l'abri de certaines mesures de persécution, notamment pour la spoliation. La République sociale italienne abolit cette distinction et donc fait procéder à l'internement de tous les Juifs et à la confiscation de leurs biens. Et là, la situation des Juifs, très brutalement, se dégrade considérablement. Et ils sont dans une situation de précarité absolue, liée aussi à la spoliation, bien sûr.
Alors, le 16 septembre 1943, premier convoi de déportation, il compte 35 personnes. Un mois plus tard, la grande rafle du ghetto de Rome, le 16 octobre, 1007 personnes partent pour Auschwitz, puis viennent les déportations des Juifs de Sienne, de Florence, de Bologne, de Turin, de Gênes, de Milan, de Venise. Donc un enchaînement très très rapide. Si on fait le bilan, au final, la déportation va toucher à peu près autant en proportion de Juifs en Italie qu'en France.
Oui, donc à peu près 7600 Juifs, effectivement, sur une population de 35 000 qui était encore présents à ce moment-là. Une déportation qui s'opère sur la base d'une collaboration entre la police italienne de la République sociale et les autorités allemandes, avec des processus qui sont assez comparables, c'est-à-dire des camps de transit gigantesques qui sont constitués, à partir desquels les convois sont dirigés vers Auschwitz. Alors, cette rafle dont vous parliez, du 16 octobre 1943, est effectivement une rafle très importante. Ensuite, ce sont des rafles.
C'est la rafle dont on a dit qu'elle s'est passée sous les fenêtres du Vatican.
Sous les fenêtres du Vatican, effectivement, elle s'est passée à Rome, dans la ville du pape, pape qui a su protester,
Pie XII,
donc qui a su protester lorsque sa ville, dont il est évêque aussi, a été bombardée pour les Alliés, et qu'on n'entendra pas au moment de la déportation des Juifs de Rome.
Alors, cette histoire, Marianne Matarbonucci, vous nous dites en conclusion de votre ouvrage « L'Italie fasciste et la persécution des Juifs », dont je rappelle qu'il a été publié aux éditions Perrin, cette histoire, vous nous dites qu'elle a été plongé dans le silence pendant 2-3 décennies après la Seconde Guerre mondiale. L'histoire donc des persécutions des Juifs dans l'Italie fasciste.
Oui, il y a eu un processus un peu analogue, effectivement, en France et en Italie, de ce point de vue-là. Les recherches ont commencé à démarrer véritablement. Alors, il y a eu quand même un livre très important en 1961 du grand historien du fascisme Renzo De Felice, qui avait été commandé par la communauté juive. Et puis, on peut dire que les recherches ont commencé véritablement dans les années 1980 et plutôt dans les années 1990. Alors, aujourd'hui, on est sorti, en effet, de ce silence. Certaines initiatives mémorielles également existent en Italie.
Alors, justement, je rebondis. Une dépêche est tombée il y a quelques jours, hein, Marianne Matarbonucci, annonçant donc que le maire de Rome, Gianni Alemano, avait annoncé donc la concession d'un terrain donc donné par la ville de Rome, la Villa Torlonia, pour la construction d'un musée de la Shoah, donc dans les prochains mois, prochaines années, à Rome.
Oui, alors c'est une affaire, effectivement, qui est en cours depuis assez longtemps. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que Alemano est maire de Alleanza Nazionale, c'est-à-dire la formation qui est issue de l'ancien mouvement social italien, qui se réclamait au départ...
Ancien membre du parti néofasciste.
Voilà, oui. Mais dont Fini, l'actuel leader, a entrepris une espèce de, comment on pourrait dire, de... processus, oui, plus que d'adjornamento, c'est-à-dire de conversion, d'évolution vers la démocratie. Hein. Et donc, c'est intéressant de savoir que ce projet de musée qui avait été engagé par la municipalité antérieure a été conservé, effectivement, par Alemano. Alemano, qui est d'ailleurs été allé en Israël après Fini. Hein. Et donc, je crois que sur ce terrain-là, rien n'est jamais acquis, bien sûr, mais sur ce terrain-là de la mémoire de la Shoah, pour le moment, les clivages politiques sont relativement dépassés, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas à l'extrême droite de l'antisémitisme et du racisme. Et il faut signaler qu'il y a un autre musée très important, alors du judaïsme et de la Shoah, qui est en train d'être créé à Ferrara, la ville bien connue du jardin des Finzi Contini de Bassani. Et ce musée a lancé une initiative très intéressante il y a quelques mois, qui est la Festa del Libro Ebraico, la fête du livre juif, qui a été organisée donc il y a quelques mois au moment du nuage volcanique, je ne sais plus exactement quand c'était.
Voilà, donc beaucoup d'initiatives à suivre et à retrouver. Un grand merci, Marianne Matarbonucci. Je rappelle donc les références de votre ouvrage, L'Italie fasciste et la persécution des Juifs, publié aux éditions Perrin. C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah.